Radio Capi, grand témoin.
Chers auditeurs et auditrices des Radio Capi, bonjour. Merci de choisir la Radio de la Paix. Ce numéro des grands témoins est co-présenté par Martial Papi Moukeba et moi-même Rosalie Zawadi. Les grands témoins que nous recevons aujourd'hui, c'est le professeur Djari Boumouli Wavio, député provincial du Nord Kivu, élu des Béni de 2007 à 2018. Il enseigne dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la région. Il vient de publier son nouveau livre avec comme titre « Procès contre les rebelles ADF à Béni, récit d'une tragédie politico-judiciaire ». C'est dans nos studios de Goma et Béni que nous l'avons reçu. Professeur Djari Boumouli Wavio, bonjour.
Bonjour madame.
Avant de parler de votre nouveau livre, nous allons d'abord parler de vous. Et c'est avec mon confrère Martial Papi Moukeba. Bonjour Martial.
Bonjour Rosalie. Professeur Djari Boumouli Wavio, vous êtes originaire du territoire de Béni. Parlez-nous de votre enfance. En quelle année vous êtes né? Quels souvenirs d'enfance gardez-vous?
Bon, j'ai une enfance un peu mouvante. Je suis né à Kiondo, dans le territoire de Béni, en 1972. Et notre famille bougeait beaucoup. D'abord, mon grand-père était un agent de l'État, il était conservateur. Et puis, mon père est entré dans la force publique et puis il a quitté. Et je fais l'école primaire à Mutuanga, à l'école primaire Amani Banyangala, actuellement école primaire Busamba de Bulongo. Et après, je suis allé à l'Institut Rwenzori, où j'ai fait l'école secondaire, le CO. Et puis, je suis venu finir à l'Institut Bulongo, à maths physique. Donc, c'est là que j'ai fini mes études secondaires. Et puis, comme tout jeune qui avait des ambitions...
En parlant d'abord de vos souvenirs d'enfance, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez passé votre enfance? Parce que vous nous parlez tantôt du fait que votre enfance a été très mouvante.
Oui,
parce
que
le papa était un agent de l'État,
et puis,
qui s'est retrouvé dans la force publique.
Oui.
Dites-nous un peu, quelles sont les localités de la zone où vous avez vécu? Comment s'est passée la vie là-bas? Et quels sont les souvenirs que vous gardez de cette enfance-là?
Notre famille a partagé la vie entre Rumangabo, Goma, Mutsora, Kiavinyonge, et partout dans la région ici. Mais ce qui m'a marqué, c'est la période où nous sommes arrivés à Mutuanga, quand j'ai commencé à grandir, l'école primaire, l'école secondaire.
Vous aviez quel âge?
Non, j'étais tout petit, j'avais 6 ans, l'école primaire. Et comme mon père aimait trop les chiens, nous avions des chiens. Et ce qui m'intéressait plus après les cours, c'était la chasse. Donc, on allait à la chasse, on allait faire la chasse. On allait quelquefois dans les rivières de chez nous, la rivière Boutaou, pour faire la pêche et puis à la villageoise. Et c'était très, très intéressant, cette vie-là. Mais ce qui m'intéresse par rapport au sujet que les journalistes abordent quand on est ensemble, c'est que la forêt était pacifique. Nous avons vécu à Mutuanga, on allait jusque très loin, jusqu'à Mabasimba, jusqu'à Lungupa, jusque très loin pour faire la chasse à la poursuite des gibiers et on rentrait sans problème. Bon, malheureusement aujourd'hui, la situation s'est compliquée. Je ne sais pas s'il y a encore des chasseurs, je ne sais pas si les enfants peuvent encore aller jouer dans la rivière Boutaou. Mais on a fait toute cette affaire et c'était très, très magnifique.
Et donc, vous gardez des très bons souvenirs, votre grand souvenir de votre enfance dans la région de Béni, c'est le fait d'aller faire la pêche.
Oui, oui,
d'aller
la pêche.
À la chasse.
La chasse, oui.
En brousse, et revenir.
Oui.
Sans être inquiété.
Sans être inquiété.
Il n'y avait pas d'insécurité.
Bien, il n'y avait pas de sécurité, on était bien. Et on pouvait arriver même jusqu'à Kilia. Avec des chiens, dans la brousse, vous êtes de très loin de Boulogne, vous arrivez à 15-20 km vers Kilia et vous rentrez le soir. Donc, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant là, apparemment, ce sont des régions les plus compliquées à sillonner.
Vous parlez de Mutuanga, mais vous ne parlez pas de Boulogne. Pourtant, vous êtes souvent considéré comme quelqu'un de Boulogne.
Quand j'ai dit Mutuanga, c'est-à-dire Boulogne, nous, dans notre réflexe, tous les affaires du Rwenzori, quand ils disent Mutuanga, il peut être des Rugeti, il peut être des Lume, il peut être des Bulongo comme moi, il peut être des Mwenda, mais généralement nous disons Mutuanga, Mutuanga, Mutuanga. C'est ça. Donc, Moi, je suis de Boulongo.
Vos amis d'enfance?
Bon, j'ai plusieurs amis. Il y en a qui vivent encore. L'ancien administrateur des territoires de Beni, M. Kibwana Sonis, avec qui on est grandi. J'ai un ami ici, Richard, qui est métis. Il doit être ici à Boïkène. Ça fait longtemps qu'on ne s'est jamais vu. J'ai plusieurs amis avec qui on a partagé la face, sans oublier les amis de Kiavinyonge, où j'allais le plus souvent. Et j'ai aussi des amis avec qui on a joué au foot.
Comme qui?
Plusieurs. Les autres peuvent être à Beni, mais je ne passe pas. J'en connais qui sont à Kiavinyonge, qui sont à Boulongo, notamment Japol, Kibwana, qui doit être à Moutsora, et bien d'autres amis.
Vous étiez aussi un ancien joueur de football?
Oui, j'ai joué au foot. J'avais une licence dans l'équipe Ferrouge. J'avais ma première licence dans l'équipe Nyuki quand je suis allé à Butembo pour des études secondaires. Avant encore de retourner chez nous à Boulongo, j'étais à Butembo. Nous avons joué avec Régis, avec beaucoup d'amis du personnel, Mangoudoula, Dilolope à son âme, Doudou qui est encore à vie. On a été avec tous ces amis-là.
Des anciens icônes du
football
dans le
Grand Nord. Des anciens icônes du football. Oné, j'ai été avec lui dans l'équipe Nuke. C'est un grand frère, mais on a joué avec lui puisque à l'époque, j'étais encore fort, j'étais encore trop jeune et j'ai joué très bien au foot. Et le dernier président de notre équipe, paix à son âme aussi, c'est l'Ajida Mabonzi qui, à cause de l'AFDL, il est allé trouver la mort vers Isiro. Mabonzi Menga, qui était un équatorien. À un moment donné, il m'a payé des études puisque j'ai joué bien au foot. J'ai étudié dans plusieurs écoles à Beni. Je suis allé à Butembo, d'abord au petit séminaire et puis après une année, j'ai été renvoyé à aller au petit séminaire.
Pourquoi?
Bon, il paraît que, tel que je réfléchis, vous me connaissez. Je suis dialecticien, c'était tout à fait normal que les prêtres ne me tolèrent pas. Mais est-il que même si je n'ai pas été prêtre, la vie continue. Voilà, donc après je suis rentré à Boulongo. C'est là que j'ai terminé en maths physique à l'Institut Boulongo. Bon, voilà. Et après je suis allé à l'université.
Et quel message vous pouvez lancer aux élèves qui fréquentent ces écoles aujourd'hui?
Les enfants qui étudient à l'école primaire Boussamba, à l'Institut Rwenzori, comme à l'Institut Boulongo, c'est de les dire qu'on peut étudier là-bas et devenir professeur. Puisqu'après toute cette vie qu'on a vécue chez nous dans les Rwenzori, on est allé à l'université et aujourd'hui on m'appelle professeur dans une des grandes. D'ailleurs, c'est la grande université du Nord Kivu.
Après avoir été député, il faut le dire.
De Goma. Oui, après avoir été député et avant d'être député, après avoir été assistant de premier mandat, assistant de deuxième mandat, chef des travaux et puis professeur.
Exactement, pour vos études universitaires, vous allez à l'université de Kisangani et tous vos travaux universitaires avaient porté sur les ADEF.
C'est vraiment moi-même, je ne comprends pas comment c'est arrivé. Donc, quand je suis allé à l'université, je devais aller à l'université de Kisangani et la route a été bloquée. On devait faire Goma, Walikale jusqu'à Kisangani. Et comme on venait d'ouvrir, il y avait 2 ans qu'on venait d'ouvrir, l'université de Kisangani, mais ex-station de Goma.
Nous sommes en quelle année?
En 94-95, nous nous sommes rencontrés là-bas. Moi, je suis de la 3e promotion. Nous nous sommes rencontrés là-bas avec des amis qui sont très bien connus, que je salue d'ailleurs à Passa. Le colonel Birocho, je ne vais pas citer tout le monde. Le colonel Jimmy, qui est aujourd'hui, je crois, le numéro 1 de la police des frontières au Nord Kivu. Et on s'est retrouvés là-bas, eux étaient devant moi. Quand je suis arrivé à G3, en 98-99, je devais choisir un sujet de TFC, le travail de fin de cycle. Bon, curieusement, j'ai préféré travailler sur la situation de chez moi. Et la situation de chez moi, c'était les sécurités. Avec l'entrée de l'AFDL qui a bousculé une rébellion ougandaise qui était déjà installée chez nous, même à Beni, ici dans la ville, ils étaient ici à face de l'église Seka à Matonke. Et comme par hasard, j'ai fait le choix de traiter sur la sécurité de chez nous. Et c'était les ADEF. Alors, lorsque j'ai mené les recherches, je suis venu ici. Je suis allé à Mutuanga, à Rugeti, à Boulongo, à Lume, partout là-bas, à Masambo. Et c'est là que je vais découvrir les noms de ces gens-là. Puisque avant, on les appelait nalu nalu ou bien noko 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 ba muyomba swahili alingala noko noko comme les militaires zaïrois les appelaient les phases. Alors quand j'ai mené les recherches, c'est là où j'ai appris qu'il s'appelait Adef Nalu. J'ai fait un travail de fait de cycle de je crois 82 pages et même le professeur Essiso qui avait dirigé le travail me posait la question, est-ce que tu sauras défendre ce travail avec des questions sécuritaires, tout ça? Bon, les jours de la défense, les gens étaient émerveillés. Et j'ai eu une bonne cote, puisque à l'époque, j'ai eu 80% pour le travail. Après, je suis entré dans la deuxième phase du travail scientifique. J'ai fait les mémoires de licence. Les mémoires de licence, c'est à 2001-2002. Et là, il y avait les RCDKML ici, mais il y avait aussi les Maïmaï dans la région. Alors, les Maïmaï étaient un mouvement qui était presque adoré. Je me souviens même une de mes tantes maternelles, maman Mariro, que j'ai salue à travers votre émission, qui travaillait à la Capaco et qui est ici à Béni, m'avait dit que c'était un mal nécessaire à l'époque-là, puisque c'est eux qui essayaient de résister contre les RCD Goma quand ils avançaient vers Kanyabayonga et même effacer les tableaux pour lesquels Roger Lubala est en justice à France. Et c'est eux qui résistaient là-bas. Alors, j'ai préféré travailler sur les Maïmaï, mais à les comparer, leur organisation avec l'organisation des ADEF, à l'époque ADEF Nalu. Alors, le professeur m'a dit, comme tu viens d'être nommé assistant et que tu as pris passion dans la recherche sur ta région, tu peux travailler sur les ADEF. Mais malheureusement, mes études ont été interrompues et ma carrière d'enseignant a été interrompue. Donc, en même temps, je devais être nommé assistant, mais j'ai eu un travail au gouvernorat. J'ai été nommé conseiller au cabinet du gouverneur Serufuli à l'époque.
Vous avez quel âge?
J'avais, je crois, 27 ans. J'avais 27 ans. À l'époque, le gouvernement était entré, c'est ce qu'on a appelé E plus 4. Donc, le RCD Beni devait envoyer une délégation à ses délégués à Goma. Le gouvernement, le PPRD, devait envoyer ses délégués à Goma. Et le RCD Goma, qui tenait la province, devait donner des délégués aussi. C'est comme ça que je suis parti sur proposition du ministre Mboussa Nyamwisi. Je suis allé avec le vieux Kaisavira, paix à son âme, le colonel Kaisavira. Il a été nommé vice-gouverneur et moi j'étais conseiller au cabinet du gouverneur. Et là, j'ai commencé à découvrir des grandes figures comme Mitondeke, Baloumé Tutsi, Serufuli lui-même qui était gouverneur. Et j'ai fait 3 ans avec Kaisavira, qui était mon papa direct et qui m'apprenait à comment faire la politique. C'est là que, curieusement, je suis entré dans la vie politique active. Même si les gens croient que quand j'étais étudiant, comme j'étais représentant des étudiants de l'INIGOM, j'étais déjà dans la politique. Mais la vraie politique, vraiment, je l'ai goûté quand je suis arrivé à la province. Mais bon, un jour, je me suis rencontré avec un ami, un ancien enseignant qui nous a donné cours, qui était assistant à l'université, qui m'a dit non, on est en train de nommer les gens à l'université, les gens qui avaient fait des bons points, on les nomme encore, donc il faut renouveler votre dossier. J'ai dit, mais mon dossier est déjà à l'INIGOM. Il a dit, non, il faut revenir. Alors, c'est comme ça que ça m'a intéressé. Et c'est M. Albans qui vient d'être nommé directeur de cabinet du gouverneur Chirimwami, le général Chirimwami. Et mon dossier est retourné à l'INIGOM et c'est comme ça qu'on m'a nommé. Je crois à 2010, je suis devenu assistant de premier mandat. J'ai suivi les échelons tels qu'il est recommandé. Premier mandat, deuxième mandat. Et au bout de compte, j'ai été chef de travaux. Et je suis allé à l'université de Kisangani pour d'abord le troisième cycle, donc le DA. Et j'ai travaillé sur la stratégie de résistance des ADEF face aux opérations militaires. Et ça a intéressé l'université et mon professeur lui-même. C'est comme ça qu'il m'a demandé de m'engager à la thèse. Et malheureusement encore, je voulais interrompre puisque les élections sont arrivées en 2018. Alors que je venais de prendre inscription pour la thèse, je suis venu m'embrouiller ici dans la campagne électorale comme maintenant. Et après avoir perdu 8 mois, perdu et les élections et retardé mes études, j'ai décidé de rentrer à Kisangani. Et carrément de me concentrer, c'est comme ça que j'ai soutenu ma thèse. À la veille de Noël 2021, j'ai fini la thèse et voilà, j'ai finalement été nommé professeur. C'était ma passion, puisque déjà à l'école, après l'école secondaire, chez nous à Boulongo, j'ai été enseignant pendant une année.
Votre thèse porte également sur les ADEF.
Ma thèse porte sur les ADEF, Mais j'essaie de donner un modèle dans la thèse. Je donne le modèle, ce que j'ai appelé la gouvernance sécuritaire contingente, qui est un modèle que je propose pour éradiquer le phénomène ADF. C'est un modèle complexe, mais qu'il faut essayer.
Professeur Jaribou, quand est-ce que vous attendez parler des ADF pour la première fois?
Moi, j'ai la chance d'avoir partagé deux vies. La vie normale des paysans et la vie d'un enseignant, donc un chercheur. Dans la vie normale des paysans, on ne connaissait pas les ADF. On a vu des rebelles ougandais venir chez nous à Boulongo, venir à Lume, s'installer à Rugeti, à Ukira, à Massambo, partout. C'est les années 95, 96, 97. On les a vus, on a vécu avec eux, on a échangé avec eux et avec certains, on a joué au foot.
Là, ils ne tuaient pas les gens.
Ils ne tuaient pas les gens.
Et personne ne savait qu'ils sont des ADF.
Nos militaires les appelaient Noko. C'était des rebelles ougandais, on savait. Ils s'habillaient bien. Ce sont des qui ont amené les véhicules marque Dina, puisqu'ils avaient des Dina. Ils transportaient leur matériel, les vivres, tout jusque dans les massifs, chez nous, dans les Rwenzori. Là, c'était déjà normal. Alors, la deuxième vie dont je vous ai parlé, la vie scientifique, donc des chercheurs. Maintenant, j'ai mené les recherches pour comprendre les sécurités de chez nous. Et c'est là que j'ai appris qu'on les appelait ADEF. Et avec l'évolution de mes recherches, j'ai appris aussi que les Nalu, c'est autre chose, et les ADEF, c'est autre chose. Pendant mes premières recherches, il y en a que j'ai rencontrés. À l'état normal, comme rebelles, chez nous, à Miende, à Rugeti, partout là-bas, je les ai vus, j'échange avec eux, et je les ai compris à l'époque.
Là, nous sommes en quelle année?
Oui, en 97, 98. Là, j'arrivais là-bas, il y avait la guerre de la FDL, bien sûr. Ils étaient en train de fuir, mais on pouvait en avoir, que certains, on pouvait les rencontrer dans les villages, ceux qui se cachaient. Mais ce qui est très intéressant dans la recherche que nous avons menée sur les ADF, c'est que nous avons été partout pour creuser et comprendre les phénomènes ADF. Nous avons été en Ouganda. Nous avons donné des conférences scientifiques à l'université de Makerere. Nous avons été à Bunibugyo. Nous avons été à Oima. Nous avons été à Kasese. Et pendant longtemps, nous faisons un mois à Kasese. Ici à Beni, n'en parlons pas. J'ai été à Eringeti, j'ai été à Kainama, j'ai été partout là où on peut avoir des informations sur les ADF. J'ai été à Kangwai, j'ai été dans plusieurs cachots ici à Beni, que ce soit à l'auditorat, que ce soit à Tamende à l'époque où fonctionnaient
les bureaux de renseignement militaire.
Donc partout là-bas, j'ai été dans les résidences des généraux qui ont arrêté des ADF et qui m'appellent « Venez, venez !» Et j'ai interrogé partout là-bas. J'ai été même avec d'anciens prisonniers qui se sont évadés et qui me racontent comment ils se sont évadés, quels sont les discours qui ont précédé, les préparations qui ont précédé, les évasions, tout ça. Bon, c'est la science, hein, donc personne n'est au top. Mais en tout cas, j'ai des informations que je ne saurais même pas produire. Si je me mets à écrire, je n'aurai pas l'état de m'occuper d'autre chose sur la question des ADF. Et quand je lis mes ouvrages, il y a des moments où j'ai ri. J'ai ri et je me dis, c'est de l'histoire, c'est bon d'avoir contribué à l'histoire de ces pays et de la région.
Le grand témoin.
Merci Martial Papi Moukeba pour avoir conduit cette première partie de cette émission Grand Témoin qui reçoit aujourd'hui le professeur Jaribou Muliwavio. Après votre présentation et votre parcours, professeur Jaribou, parlons maintenant de votre nouveau livre. Les ADF ont commencé les tueries des civils en masse en 2014. En 2016, s'ouvre les procès des tueurs à Beni. Votre livre, professeur Jaribou, porte sur ces procès qui a comme titre « Procès contre les rebelles ADF à Beni, récit d'une tragédie politico-judiciaire ». Parlez-nous d'abord du titre.
Récit parce que dans les livres, nous reprenons les procès in extenso, tel qu'il a commencé. Vous savez que le procès a duré 17 mois. Les audiences ont commencé le 20 août 2016 jusqu'au 22 janvier 2018. C'est d'abord un récit, donc nous récitons, vraiment c'est un récital de tout ce qui s'était déroulé. Tragédie, puisque quand vous suivez les procès, les révélations qui ont été faites au cours du procès, vous dites c'est une tragédie. Et quand vous lisez les livres, les 800 pages, C'est un livre qu'on peut terminer même en une journée, puisqu'il est, il est très facile à lire. Et j'ai des questions-réponses. Je vous dis, vous pleurez. Vous pleurez et vous vous posez la question, pourquoi le juge n'est pas allé jusqu'au bout? C'est un procès, bien sûr, et il n'est pas allé jusqu'au bout. C'est là que nous lui donnons la connotation politique. Donc, RSI, une tragédie politico-judiciaire, nous disons, il y a de la politique, puisqu'il, à l'époque, il fallait justifier. Les pouvoirs de l'époque étaient menacés par l'opinion, puisqu'on acquisait certains commandants, on acquisait les régimes lui-même d'être derrière les massacres, et il fallait organiser un procès pour donner de la lumière par rapport aux événements qui se déroulaient à Béni, mais aussi il fallait conclure, arriver à une conclusion. Mais il semble que la conclusion n'a pas arrangé la question, puisque un, l'objectif, c'était que les procès devaient participer à dénicher des acteurs de la violence, mais aussi devaient participer à juguler les massacres. Or, après plusieurs années, 5 ans je pense, les massacres continuent. Tragédie, parce que quand vous arrivez à Béni, quand vous arrivez à Ituri, et aujourd'hui à Mambasa, les victimes se disent n'avoir pas été satisfaites et que les procès, oui, a eu lieu, mais ils n'y ont pas trouvé leur compte. Donc, ils continuent à attendre que justice soit faite. Voilà pourquoi c'est de la tragédie.
Professeur Djaribou, avec mon confrère Papi Moukeba, vous avez parlé de la rébellion ougandaise au Zaïre. C'était des éléments gentils à l'époque, comme vous l'avez dit. Mais pourquoi ont-ils commencé à tuer?
Les ADF sont dans ce qu'on appelle la théorie d'adaptation des revendications, ou bien la théorie d'adaptation d'action. Les ADF sont arrivés à tuer, puisque ce qu'ils disent, je ne sais pas s'ils trompent, et ce n'est pas possible, ça ne peut pas se faire, ils disent que dans leurs accords avec Mobutu, Mobutu leur avait donné un territoire. Ça, ils le disent, et ils font des tracts, et ils les déclarent. Ce qui n'est pas normal. C'est ce que j'ai appelé l'adaptation des revendications. Lorsque ils tuent et disent qu'ils avaient un territoire, qu'ils doivent les protéger. Bon, mais d'autre part, ils disent aussi, nous vous avons aidé à mater les rébellions, alors qu'ils n'ont rien fait, puisque les rébellions continuaient. Ils disent, nous avons aidé les Aïrois, et comment vous voulez nous foutre à la porte comme des petits bandits, comme des petits voyous, alors nous résistons, nous devons nous maintenir sur le territoire. C'est l'article de Thierry Virculot qui avait parlé de la sédentarisation, lui qui refusait qu'ils n'étaient pas des terroristes, alors qu'ils sont naturellement terroristes. Alors, ils ont plusieurs justifications. Donc, on leur a donné un territoire, et ils se sanctuarisent, ne veulent pas que quelqu'un les dérange là où ils sont. C'est encouragé avec la faiblesse de notre puissance de feu, mais aussi, à un moment donné, ils ont attaqué, tué les gens pour éloigner la population de leur sanctuaire, donc éliminer les témoins gênants. C'était ça l'objectif.
Et donc tout ce qu'ils ont fait comme massacre, c'était chasser la population, entre guillemets, du territoire là qu'ils auraient...
Voilà. Et empêcher les gens à accéder aux espaces qu'ils tenaient à l'époque. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, ce sont des islamistes. Et c'est à peine qu'on est en train de parler de ça. Depuis 2017, les gens ont écrit des ouvrages sur les ADF sont des terroristes, sont des islamistes. Mais moi, je connais, depuis leur création, depuis qu'ils ont opéré à Kampala, les années 90, ce sont des extrémistes islamistes, donc des terroristes. Ils ont fait ce qu'ils avaient déjà fait à Kampala, dans leur pays. Donc c'est dans leur mode opératoire, comme islamistes radicaux, décapiter les gens, tuer, incendier, ça, c'est leur mode opératoire. Ce n'est pas seulement au Congo qu'ils ont fait ça, ils ont commencé cela dans leur pays, avant qu'ils n'arrivent au Congo, et vous voyez qu'ils sont en train de continuer à le faire, même quand ils ont l'occasion d'aller sur leur territoire ougandais.
Et maintenant, en 2016, en RDC, commencent les procès des ADF. Votre livre, c'est un récit du déroulement du procès. Pourquoi cette méthode de, on dirait, la transcription de tout ce qui s'est dit au procès, virgule, respiration tout dedans? Pourquoi avoir choisi cette méthode pour parler du procès?
Bon, cette méthode d'abord, cet ouvrage s'inscrit dans une approche de la sociologie du droit. Nos collègues juristes, il y a des époques où ils considéraient la chose jugée comme une parole d'évangile. Notre livre ne remet pas en cause la chose jugée, mais elle analyse les actes posés par les spécialistes du droit ou bien les juges. Nous essayons d'analyser les actes que les juges posent, les discours du juge, les comportements du juge, ça la sociologie du droit. Mais elle se situe dans une approche de l'histoire du temps présent. Histoire du temps présent parce que, un, l'ouvrage a pour but de conserver la mémoire. Conserver la mémoire, donc c'est une base de données qui assure la transmission du procès ADEF. Les gens ont suivi les procès, les gens ont été massacrés. On a arrêté des criminels, on les a envoyés à Angenga, dans d'autres prisons. Mais comment la question a été administrée jusqu'à ce que des grands criminels qui étaient déjà à Angenga se retrouvent dans la brousse.
Encore à Béni.
Donc, oui, encore à Béni. Donc, c'est un ouvrage qui a pour but de conserver la mémoire, mais aussi permettre aux générations futures de comprendre ce qui s'était passé dans notre pays. Deuxièmement, l'ouvrage offre un instrument de qualité pour les recherches sur les phénomènes ADEF. Et il intéresse et les politologues pour comprendre comment la guerre était menée, comment les gens ont créé leur affaire, comment des gouvernements ont collaboré avec des criminels, comment des acteurs locaux ont collaboré avec des criminels, mais quelles ont été aussi les démarches pour mettre fin à cette question. Ça intéresse aussi les économistes. Mmh. Les économistes pour comprendre l'économie criminelle dans la région de Béni, à la frontière avec l'Ouganda, des criminels positionnés dans plusieurs pays, vous voyez, du Congo jusqu'en Asie, comment ils opèrent, comment ils font les business. Les économistes savent comprendre dans ces livres et analyser de manière fraîche. Les juristes, ils comprennent, puisque la question du terrorisme n'était pas vraiment dans les droits congolais. D'ailleurs, à l'époque, les juges ont eu difficile à qualifier les crimes que les ADEF commettent. Alors, les juristes peuvent suivre comment s'était déroulé le procès du début à la fin pour comprendre comment un procès contre les terroristes peut être mené. Ne parlons pas des facettes des droits humains. Ça, c'est un document qui les aide à faire plaidoyer. Puisque je vous assure, j'ai été avec les victimes, plusieurs disent qu'ils n'ont pas trouvé leur compte dans ces procès de Béni. Il y en a qui souhaitent que ces procès soient réouverts. Je ne sais pas si sur le plan du droit, on peut réouvrir un procès, on peut aller en appel pour la chose jugée par une cour militaire opérationnelle. Je ne sais pas, ça c'est la question des juristes. Mais il y en a vraiment qui pensent qu'il faut réouvrir ces débats. Et il y en a qui exagèrent à dire il ne faut pas l'ouvrir ici par rapport à ce qui s'était passé à Béni et les comportements du juge. Des avocats étaient intimidés. J'ai eu des témoignages que les avocats étaient intimidés et qu'il faut une cour spéciale pour cette question et généralement pour la question du Congo. Donc voilà l'intérêt. Voilà ce qui intéresse. L'intérêt qui est dans ce livre, c'est ça.
Oui. Avant de continuer... Comment êtes-vous entré en possession de ces documents du procès que vous avez retranscrit?
Le procès était public. J'ai été à Béni, pas pendant longtemps, mais il y a vos collègues, des journalistes. Je remercie la Radio Liberté de Oïcha qui m'a disponibilisé toute la documentation. Donc, ils m'ont donné des vidéos, ils m'ont donné des outils sonores et j'ai transcrit à partir de mon écran, j'ai transcrit mot à mot en écoutant tous les détails du procès. Et nous sommes arrivés à réaliser un document de plus de 800 pages. Nous sommes descendus à Béni pour les remettre aux amis qui avaient suivi le procès du début à la fin, en détail. Et c'est comme ça que nous avons pensé que les documents valaient mieux d'être publié.
Alors, merci à ceux qui viennent de nous rejoindre sur Radio Okapi. Vous écoutez l'émission Grand Témoin qui reçoit aujourd'hui les professeurs Djari Boumouliwavio et qui vient nous présenter son ouvrage Procès contre les rebelles ADF à Beni, récit d'une tragédie politico-judiciaire. Avant de continuer, professeur, nous allons prendre une chanson et une chanson de votre choix.
Avec plaisir.
Oui.
Jalousie à bas des gâteaux divers. J'aime la chanson, j'ai aimé Gâteau divers, c'était jeune intelligent.
Lia, Nabusha Katumba, Tokutana ce soir, tu peux aller moi.
Le grand témoin.
Okapi. Souvent, lorsqu'on parle de la guerre de l'Est, on parle des guerres économiques. Et ça se retrouve justement dans ces procès. À quel niveau ce phénomène des ADF se retrouve être une guerre aussi économique?
Ceux qui étaient au procès à Beni vont se remémorer. Vous allez voir qu'après l'échec des ADF à entrer dans leur pays, où ils voulaient aller changer le régime et créer, si vous voulez,
l'État islamique.
L'État islamique ou bien l'État qui est géré sur base de la charia. Vous allez voir que les ADF, c'est ce que j'ai toujours dit, la théorie de l'adaptation des revendications, ils n'ont plus eu cette vision vraiment comme essentielle d'aller dans leur pays, de retourner dans leur pays. Ils ont décidé de se créer un sanctuaire où ils pouvaient exploiter des ressources. Et ils ont exploité les bois, ils ont exploité de l'or dans la région entre Eringeti, donc dans ce qu'on appelle triangle de la mort. Ils ont exploité les bois, ils ont exploité de l'or, ils ont exploité beaucoup d'autres ressources, ne parlons pas du cacao, du café et des huiles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tissé des connexions avec certains opérateurs, et que ce soit en RDC, que ce soit en Ouganda, même à l'étranger, plus loin de l'Afrique. Ça, nous avons constaté, nous avons documenté dans un autre ouvrage. Et ils ont été dans cette affaire. Et à un certain moment, j'avais posé des questions à des enquêtés qui disaient la vie avait prospéré, malheureusement.
Avec les ADF.
Malheureusement. Donc, ce sont des données que nous avons eues. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que c'est eux qui tenaient les affaires. C'est eux qui tenaient les affaires.
Mmh.
Donc, tous ces circuits-là dépendaient de leurs humeurs. Ils ont tué beaucoup de gens avec qui ils opéraient. Et même lorsque on a justifié les massacres par des règlements de comptes vis-à-vis des séculaires des vins, je me souviens de la déclaration de la CMR de ville de Béni qui disait « Il y a un tract qui est tombé à Béni, il y a tel qui ont été d'ailleurs interpellés à la mairie, qui leur devaient. » Et donc, il y a eu beaucoup de victimes que les ADF ont tuées comme ça, ont fait disparaître, puisque ils faisaient des business avec eux et que les business, peut-être, n'ont pas été florissants. Et donc, il y a cet aspect-là économique.
Mm.
Mais l'aspect économique n'est pas vraiment l'objectif, n'a jamais été vraiment l'objectif essentiel pour les ADF.
Mm-hmm.
Ils ont viré dans l'économie lorsqu'ils ont été coincés, lorsqu'ils se sont retrouvés abandonnés. Vous savez, tous les régimes, qu'ils soient kenyans, qu'ils soient soudanais, qu'ils soient zaïrois, avaient disparu. Et donc, ils n'avaient plus la possibilité d'avoir la logistique et d'être supportés par leurs financiers. Et ils ont commencé un financement qui était clandestin, qui pouvait transiter par des banques locales, qui pouvait transité par Airtel Money, tout ça, nous avons découvert tout ça, mais ils se sont dit la vraie économie, c'est l'exploitation du territoire où nous sommes.
Mmh.
C'est comme ça que depuis 2005, je crois, ils sont entrés vraiment dans cette économie criminelle. Malheureusement, il y a certains acteurs, quand on généralise, ce n'est pas aussi objectif, mais certains acteurs qui avaient des connexions avec eux, puisque les plus dans la région où ils opèrent, c'est la population qui a été victime.
Mmh.
Donc, on ne peut pas dire la population a coopéré avec ces gens. En tout cas, ce sont des gens qui étaient connectés. Et ces gens-là, on les retrouve dans toutes les couches. Qu'ils soient militaires, qu'ils soient civils, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient autochtones, on en trouve. Voilà.
Lorsque survient les procès, il y avait déjà beaucoup d'opérations militaires contre les ADF, telles que vous avez parlé de leur histoire. Alors, les ADF, là, des 95, ceux qui sont arrivés pendant que des gouvernements les soutenaient, les gouvernements des pays que vous avez cités, je ne sais pas s'ils sont là.
Jusqu'à l'opération Shuja, qui est aujourd'hui, cofondée d'ailleurs avec l'opération Sukola 1, il y a déjà eu 6 opérations contre les ADF depuis 98.
Mm.
Déjà en 96, avant qu'ils n'attaquent l'Ouganda, avant que l'AFDL n'arrive, les ADF, qui étaient essentiellement des Ougandais, je dis bien essentiellement des Ougandais,
à leur arrivée,
ont recruté localement. Ils ont recruté à Beni, ils ont recruté à Bunia, et ils ont recruté sur toute cette bande-là qui va de Kasindi jusqu'à Bunia. Ils ont recruté en 96 avant les événements de l'AFDL. Donc voilà d'abord le premier recrutement. D'autres recrutements se font par les kidnappings, les enlèvements. Ils arrivent chez vous, il y a des jeunes gens, des jeunes filles, ils les emportent. Et je vous informe que les ADF préfèrent les enfants, puisque les enfants coûtent moins cher au front. Les enfants sont facilement commandés. Malheureusement, je ne vais pas contre les droits des enfants, mais je vous explique ce que j'ai eu comme résultat de recherche. Les enfants, on ne les paye pas, mais les grands, ils vont dire, bon, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai chez moi, tout ça. Mais les enfants, ils n'ont pas besoin de tout ça. Et une des spécialités pour les ADF par rapport à la préférence des enfants, c'est que le général Baou m'a appelé les Nalouettes. Les Nalouettes, ce sont des très beaux combattants. Ils sont formés là-bas, c'est eux qui font les raids, ils peuvent filtrer même les villes, ça c'est faire découvrir, ils n'ont pas d'armes, ils viennent pour les renseignements. Et d'ailleurs, Che Guevara avait écrit sur le rôle des enfants dans la guérilla, dans son livre sur l'itinéraire des révolutionnaires. Che Guevara a aussi fait l'éloge des affaires militaires. C'est condamné par la législation internationale, mais les affaires sont préférées par les rebelles. C'est par rapport à ces avantages que je viens de vous donner. Donc, ils recrutent par les enlèvements, par la ruse aussi, qu'il ne faut pas oublier, puisque dans les procès, on a vu la ruse. On vous dit, bon, nous allons à Butembo, il y a du commerce et tout ça, vous avez tel article à Goma, on va à Butembo et vous allez à Butembo, arrivez à Butembo, vous tombez dans les mains des ADF, ils vous amènent dans la brousse. Donc, ils ont fait la ruse, cette ruse-là, ils promettaient par exemple aux jeunes, je me souviens ici, avec un encore de vos collègues, qui avait découvert que dans la mosquée de Katindo, des affaires avaient été, je ne sais pas, recrutées, mais on prenait les affaires, on disait qu'on les amène dans les madrasses en Arabie Saoudite, mais ils se sont retrouvés dans les camps de Beni à Madina. C'est un phénomène qu'ils ont opéré du Burundi, de Mozambique, au Rwanda, en Ouganda, partout, à partir d'Uvira jusqu'à Beni et même jusqu'à Kisangani. C'est comme ça, la Russie les a aidés à agrandir leurs troupes. Ils recrutent partout. Même aujourd'hui, ils sont en train de recruter à travers les enlèvements, mais aussi la ruse. Malheureusement, les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi, d'ailleurs, je salue votre émission. Il faut multiplier des émissions sur cette question-là pour que les gens sachent que les problèmes continuent et les problèmes demeurent. Donc, que les gens ne soient pas distraits. Au vieux, prendre vos affaires, on dit, bon, on les amène à la Mecque, on les amène dans les écoles à Paris. Mais il faut vérifier réellement si les paris là, ce n'est pas les paris de Beni ou de la brousse. Malheureusement, ce qui est dialectique, j'ai écrit un article qui est à ligne sur la communication des ADF.
Oui.
Et je condamne ceux qui communiquent malheureusement sur la question des ADF.
Mm.
Puisqu'à communiquer sur la question des ADF,
on fait leur promotion.
Vous les stardisez, voilà.
Mm.
Donc, on fait leur promotion, malheureusement.
Professeur Djari Boumouliwavio, nous parlons de votre livre « Procès contre les rebelles ADF à Beni, récit d'une tragédie politico-judiciaire ». Comme vous l'avez dit, le livre est fait de la transcription des 17 mois du procès contre les ADF à Beni. Mais vous avez fait une introduction et une conclusion. Et dans la conclusion, vous vous exprimez. Pour vous, c'est finalement quoi la solution? Quand vous dites les victimes ont comme l'impression que le procès est inachevé, c'est quoi la solution à ce? Qu'est-ce qu'il faut faire pour en finir? Parce que 5 ans après ces procès, les massacres continuent, on les déplore, ils continuent à entrer dans les villages, à tuer des vingtaines de civils par jour.
La solution n'est pas unique. Donc, il faut une réflexion holistique. Il y a des solutions militaires, comme ce qui est en train de se faire aujourd'hui, puisque l'option militaire permet de faire ou de maintenir la pression sur eux. Il y a la solution diplomatique. Il faut maintenir un climat de bonnes relations avec les États voisins.
Mmh.
On est obligé de vivre avec les pays voisins. Même ceux qui avaient construit les murs en Allemagne, ils ont fini par les démolir.
Mmh.
Donc nous sommes obligés de créer des conditions d'une bonne diplomatie, diplomatie de bon voisinage. Mais cela passe, je rentre sur l'option militaire, ce n'est même pas l'option militaire, la politique, la solution politique, c'est de nous créer une armée réformée, capable de faire face, qui oblige les autres pays à nous respecter. Donc, tant que l'armée n'est pas refondée, tant que l'armée n'est pas adaptée à la menace, puisque je l'ai toujours dit, ce que nous faisons, ce que nous avons fait depuis longtemps, j'avais fait une interview avec Radio Capi lorsque les opérations Shujaa ont commencé. Depuis que nous avons commencé, il y a opération, Sokola Rwenzori, Renard de Montagne, tout ça. Donc, on a commencé plusieurs opérations et ça ne va pas. C'est-à-dire que notre riposte n'est pas adaptée. C'est pourquoi j'ai toujours suggéré des troupes spécialisées ou bien spéciales, des guerriers. Puisque les ADF utilisent la guérilla, il faut qu'on ait des troupes qui utilisent aussi la guérilla. Pas des troupes classiques qui sont positionnées, on fait une semaine, un mois, dans la position à Karuruma, dans la position à Oicha, à Eringeti. Non, il faut des troupes qui bougent, comme l'ennemi. Ça, c'est ce que les autres ont fait, par exemple, en Bolivie, en Colombie, dans plusieurs pays, même avec les Barkhane, les opérations au nord du Mali, tout ça, c'est ce que les autres font. Donc, nous devons essayer de faire aussi autant. Mmh. Alors ça, c'était l'approche politique. Il y a aussi l'approche juridique, comme celle sur quoi on est en train de discuter. On arrête les gens. Ils sont dans la prison de Kangwai, ils sont dans la prison de Kakwangura, à Butembo. Mais vous apprenez que des milliers ou bien des centaines de prisonniers se sont évadés. C'est quelle façon d'administrer les droits? Vous arrêtez les gens, vous les mettez à Kangwai, sur l'espace sous influence des terroristes, et vous arrêtez des terroristes et vous les laissez à Kangwai, vous laissez 10 militaires. Alors que vous connaissez que les ADF font venir 100, 200 et bombarder les 10 militaires et faire évader les... Et c'est comme ça que ça s'est fait à Beni plusieurs fois. Malheureusement, je ne sais pas si nous sommes assorcelés. Il semble que nous sommes assorcelés. La prison de Kangwai a déjà été attaquée, je crois, 4 fois. Donc, de la même manière. Et la dernière fois, il y a un véhicule qui a quitté la ville, le centre-ville, pour venir à Kangwai, puisque Kangwai s'est épais à l'écart de la ville. Les véhicules transportaient les groupes qu'on va allumer et on va mettre les scies pour couper, hein, couper les portails. Et vraiment, les véhicules quittent la ville de Beni pour aller à Kangwai. Vraiment. Hein? Mm. Donc, apparemment, au niveau de la justice, il faut beaucoup aussi faire les procès. Oui, on arrête les gens, on les amène à Angenga, à Lisala. Et vous connaissez, c'est parmi les grandes prisons de ces pays. Mm. Quelqu'un qui était à Angenga, vous le retrouvez en Goro à Beni, il va à la radio, il dit, bon, Mungwari Nisaidia, Nelisha toka en prison. Donc Dieu nous a aidés, on n'est plus en prison. Quelqu'un qui était à Angenga, comment il s'est évadé de Angenga, arrivé à Beni à plus de 1500 kilomètres. Ce n'est pas normal. Donc il y a un laisser-faire dans ces pays et on se demande si vraiment on a cette conscience ou carrément, on est assorcelé.
Et dans les livres, vous dites que les procès montrent la fragilité des services des renseignements congolais face à la stratégie montée par les rebelles, les terroristes ADF pour infiltrer les systèmes sécuritaires à tous les niveaux.
Vous voyez que dans les procès, quand vous lisez certaines pages, vous voyez qu'il y a des rebelles ou bien des acteurs, hein, des agents qu'on appelle les agents doubles, qui sont et avec les ADF, et avec nos agents de services de sécurité. Hein? Ils sont ici, ils collaborent, ils sont là-bas, ils collaborent. J'ai parlé aussi de la sexualité qui a joué un très grand rôle dans cette affaire. Une femme qui cohabite à la fois avec un militaire et avec
un
ADF. Donc, c'est dans les procès, c'est clair dans les procès. Et ceux qui étaient à Beni ont suivi. Je vous ai dit que c'est une tragédie. Quand vous suivez les procès de Beni, heureusement que nous avons disponibilisé un ouvrage. Les gens qui sont très loin, qui étaient très loin, qui attendaient les séquences, qui suivaient les séquences, mais ils ont la possibilité de suivre comment le procès s'est déroulé. Mmh. Il y a des révélations, je vous dis, qui tragédiques.
Mmh. Et parmi les solutions à la question des ADF, peut-être pour terminer, professeur Djaribou Mouliwavio, vous proposez la gouvernance, sécuritaire contingente. C'est quoi exactement?
Contingente signifie une gouvernance sécuritaire adaptée au contexte. On ne transporte pas les solutions. Mmh. On ne transpose pas les solutions. Même les médecins à l'hôpital, il faut ce qu'on appelle les diagnostics. Ou diagnostique les phénomènes ADF. L'ADF, on dit, il est arrivé comme ça. Il a des relations comme ça. Voici les avantages qu'il offre, par exemple, à une certaine catégorie de la société. Voici. Et on dit, pour réparer, pour donner maintenant la cure, il faut qu'elle soit adaptée à ces diagnostics, aux résultats de ces diagnostics. Mm-hmm. Mais nous, on se réveille auprès des troupes qui ont été formées là où il n'y a pas de forêt, on les amène dans la forêt. Mm-hmm. On prend quelqu'un qui est membre des groupes armés, on l'amène là-bas, c'est lui qui devient T2. Il y a un désordre terrible dans ces pays, au point qu'on n'est pas arrivé à la vraie cure par rapport à cette question. Et vous avez vu, Lorsque leurs frères sont arrivés en novembre 2021, vous avez vu, ils ont pilonné. Ils savaient déjà, ils étaient déjà renseignés sur là où les retrouver. Bon, je ne peux pas vanter l'opération Chouja, mais quand même, il y a des avancées. Nous regrettons que les morts continuent. Mais quand vous arrivez à Karuruma, je viens de Karuruma, je viens de Mwanrika, je viens d'Oicha, je viens de Mutwanga, il n'y a même pas un mois, les gens disent, je vais parler à Swahili et puis traduire à Swahili, les gens disent, Mwache kwanza baganda huku. Les gens disent, laissez d'abord les Ougandais ici. Parce que les gens commencent à voir clair. Et je l'avais dit dans une de vos émissions. J'avais dit, il faut laisser ces opérations le plus longtemps possible. Mais si on les arrête aujourd'hui, tel que je connais les ADF, ils vont se réactiver et on rentrera à la case de départ et on déclenchera une autre opération qui ne sera pas Safisha Rwenzori, qui ne sera pas Sokola 1, qui ne sera pas Shuja, qui ne sera pas Tambete du Rwenzori, mais qui sera peut-être, qui prendra peut-être une autre appellation.
Mm. Professeur Djaribou Muliwavio, nous vous remercions d'être passé nous parler de votre livre « Procès contre les rebelles ADF à Beni, récit d'une tragédie politico-judiciaire ». Où trouver les livres ?
Le livre est vendu à Goma à la librairie Lave Littéraire. Et d'autres commandes peuvent se faire en ligne. Mmh. Donc vous allez sur Amazon. Vous tapez soit le nom du livre, soit mon nom, vous allez trouver les prix et vous pouvez acheter en ligne. Vous avez les livres, vous l'avez. Si vous voulez les livres en format électronique, vous l'aurez. Si vous voulez les livres en dur, vous l'aurez en une semaine. Vous pouvez avoir les livres au Congo à partir de Paris. En une semaine, vous aurez les livres à Kinshasa, vous aurez les livres à Bukavu, à Goma, même à Beni, vous aurez les livres en une semaine. Mm. Donc, il est abordable et puis c'est une question brillante. Les gens ont besoin de les lire. C'est pourquoi nous avons pensé que malgré ce volume, nous avons discuté avec l'éditeur qu'il faut mettre les prix plus ou moins abordables.
Alors, professeur Djaribou, pour les personnes qui voudraient vous contacter personnellement.
Je suis facilement abordable. D'abord, à l'Université de Goma, à l'ISC Goma. Et puis, sur les réseaux sociaux, vous écrivez mon nom, Djaribou Muliwavio, vous me trouvez. Mais aussi, je suis au 09 98 62 51 51. 09 98 62 51 51. Celui qui n'a pas Airtel peut utiliser Orange. Pour Orange, vous prenez 085 86 2 51 51.
Professeur Djaribou Muliwavio, je rappelle que vous êtes auteur de déjà 4 livres sur la question des ADF, dont les livres qui a fait objet de cette émission Grand Témoin sur Radio Okapi. Nous rappelons « Procès contre les rebelles ADF à Beni, récit d'une tragédie politico-judiciaire ». Merci d'être passé à Radio Okapi et à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie, Madame Rosalie.
Merci à Martial Papimoukeba avec qui nous avons co-présenté cette émission dans les studios des radios Capi Goma et Beni. Je suis Rosalie Zawadi, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à Alain Irung qui a supervisé cette production. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site www.radiocapi.net. Portez-vous bien, au revoir.